With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Louis.
Nova.
Donc la guerre a commencé en 1954, elle a eu lieu pendant 8 ans, elle a duré jusqu'en 1962, elle s'est finie par l'indépendance de l'Algérie. L'enjeu de cette guerre, c'était qui aurait le pouvoir en Algérie? Est-ce que c'était les Français qui avaient colonisé cette terre depuis 1830 ou est-ce que ce serait le peuple algérien? Et donc finalement, mené par un parti, un mouvement qui s'appelait le Front de Libération Nationale, c'est le peuple algérien qui est devenu indépendant en 1962.
Raphaël Branche est historienne et enseigne à l'université de Nanterre. Depuis sa thèse, très médiatisée à la fin des années 90, elle fait avancer la réflexion et la mémoire collective autour de la guerre d'Algérie. Dans son dernier ouvrage, « Qu'as-tu fait, papa, en Algérie ?» Enquête sur un silence familial, elle éclaire à la lumière des évolutions de notre société la manière dont se sont construits les récits autour de la guerre d'Algérie. De 1954 à 1962, plus d'un million et demi de jeunes Français sont partis faire leur service militaire, là où on ne disait pas encore qu'une guerre se jouait. Ils en sont revenus avec des silences. J'ai donc demandé à Raphaël Branche de me raconter comment la parole sur cette guerre avait été conditionnée par les bouleversements qui lui ont succédé, et d'abord, au retour de la guerre, comment s'était construit le silence. Je suis Charlotte Pudlewski, et vous écoutez Fracas.
En fait, il faut peut-être rappeler que la guerre d'Algérie est menée par une armée qui est constituée dans son immense majorité par des hommes dont ce n'est pas le métier de faire la guerre. Des hommes qui, en fait, sont officiellement simplement en train de faire leur service militaire, quelque chose dont on a oublié peut-être ce qu'il veut dire, mais à l'époque, ça voulait dire que tous les garçons de 20 ans devaient 18 mois de leur vie à la nation pour apprendre à être soldat dans l'éventualité d'une guerre. Et donc, de fait, ce sont des hommes qui ont été confrontés à la guerre, mais qui ne l'ont pas désiré, qui n'ont pas désiré le métier des armes, et qui se retrouvent à leur corps défendant, finalement, à devoir être exposés à des choses aussi violentes que des attentats, des embuscades, des réalités violentes comme des meurtres de civils algériens, ou des choses comme ça, auxquelles ils ne sont absolument pas prêts. Et donc, leur capacité à réagir et à incorporer cette réalité nouvelle, elle se traduit parfois par du silence ou par de la sidération. Donc le premier cercle, c'est l'individu lui-même, en fait. C'est la manière dont il est capable de rendre compte d'une réalité à laquelle il n'est pas du tout préparé. Et puis ensuite, si on s'intéresse à ce qu'il a été capable d'en dire, il y a le cercle des amis, il y a le cercle des très proches. La famille, celle à laquelle moi je me suis intéressée, donc ça peut être la fiancée, ou ça peut être plus souvent pour ces hommes de 20 ans, leurs frères et sœurs et leurs parents. Et ensuite, quand ils rentrent en France, ça peut être d'autres anciens combattants et puis des cercles plus larges d'amitié. Voilà, en gros, les cercles.
Dans le livre, vous racontez notamment l'histoire de Gérard Tiersen, qui est un jeune parachutiste de 20 ans et qui, dans les derniers mois de sa guerre à lui, en tout cas de sa présence en Algérie, tue un homme à bout portant. Et il avait pour confident son aumônier à qui il écrivait des lettres. Et tout à coup, il va arrêter de lui écrire.
Donc c'est un chrétien, et c'est aussi parce qu'il a ces valeurs chrétiennes qui sont mises à mal, qu'il est si pétrifié en fait par ce qu'il a été obligé de faire. Et effectivement, il a eu la gentillesse de me confier toutes ces histoires, et notamment cette correspondance avec son aumônier qui a été si importante pour lui, pour garder une espèce de boussole morale dans la guerre qui avait tout pour déboussoler en réalité. Et puis, voilà, ça c'est le moment où il bascule. En fait, il bascule sans doute dans la dépression et il bascule dans l'incapacité à écrire à l'autre, qui était pourtant son confident, à qui il avait pourtant dit beaucoup de choses pendant 5 mois, en fait, jusqu'à la veille de son retour où là, il lui réécrit « Je rentre et je n'écris plus depuis 5 mois parce que, voilà, j'ai commis quelque chose dont je ne peux plus parler tellement c'est affreux. Donc effectivement, il y a des cas comme ça. Donc là celui-là, il est... j'ai eu la chance de pouvoir le documenter. Il est probable qu'il y en ait d'autres. Il y a un autre cas dans le livre d'un journal qui s'arrête comme ça brutalement. Et là, je ne peux faire que des hypothèses. Dans le cas de Gérard Tiersen, je sais pourquoi, parce qu'il me l'a raconté, parce qu'il a repris la plume ensuite. Mais effectivement, on voit bien que, en particulier la correspondance, c'est comme un sismographe, parfois des émotions. Parfois, on arrive à les juguler, ces émotions, à les maintenir, à les contenir dans une espèce de neutralité, de « je vais bien, il fait chaud, il fait froid, j'ai faim, je pense à toi ». Et puis parfois, au contraire, hein, ça fait vraiment sismographe et il y a certaines lettres qui débordent d'émotions parfois, ou d'autres qui sont de plus en plus sèches et limitent les récits quand ils deviennent difficiles et à supporter par les soldats eux-mêmes et qu'ils veulent épargner leur famille et qu'ils veulent épargner à leur famille le récit de ce qu'ils vivent, auxquelles les familles ne sont pas du tout prêtes non plus.
Parce qu'il y a un autre témoignage dans le livre, par exemple, un soldat qui a voulu raconter à son retour, qui aurait aimé pouvoir partager ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait traumatisé pendant la guerre, et sa famille ne voulait pas entendre, et lui disait, en gros, passe à autre chose, quoi, c'est fini.
Ce soldat, c'est tous les soldats, en fait. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés, la société française, en général, leur famille en particulier, ont très rapidement, voire tout de suite, envie de passer à autre chose. Et pour ça, il faut vraiment encore se souvenir du fait que ce sont de jeunes hommes, théoriquement partis pour 18 mois, souvent partis en fait pour 24, pour 27, parfois pour 30. Et donc on a attendu qu'ils reviennent parce qu'on avait des choses à faire avec eux, notamment pour les jeunes femmes, se marier, construire une famille, chercher un travail pour les parents, effectivement, que les enfants partent. Et donc il n'est pas question de s'apesantir sur ce qui s'est passé en Algérie qui a déjà pris tant de temps aux projets familiaux. Donc l'incitation à passer à autre chose, elle est globale, elle est collective, et elle rend effectivement plus difficile pour les soldats la possibilité de se confier au-delà de quelques confidences par-ci, par-là. Mais quelque chose qui prendrait du temps et de l'écoute, c'est vraiment difficile. Par ailleurs, il me semble aussi qu'ils ne le souhaitent pas forcément. Eux aussi, ils ont envie de passer à autre chose. Et eux aussi, ils ont envie de regarder devant et de ne pas forcément s'apesantir sur l'expérience. En revanche, plus tard, ils vont peut-être avoir envie d'en parler. Et plus tard, ça sera difficile d'en parler parce que précisément au retour, on ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'ils avaient vécu. Et donc, ils auront du mal à articuler le désir de parler à 30 ans plus tard, par exemple, alors que, par exemple, parler à un frère, parler à une sœur, alors qu'ils n'ont rien dit et qu'ils sont retournés auprès de leurs frères et sœurs et qu'à ce moment-là, ben voilà, ils n'en ont pas parlé. Donc il y a cette espèce de... La difficulté à parler, elle s'explique en fonction des contextes d'énonciation, des contextes historiques. Là, en l'occurrence, socialement, on attend d'eux dans les années 60 qu'ils fondent des familles, etc. Mais le contexte d'énonciation aussi, c'est-à-dire que parfois, dans certaines familles, c'est pas possible de parler pour plein de raisons différentes qu'on peut essayer d'expliquer et qui sont aussi historiques dans la mesure où, en tout cas, pour ceux qui a intéressé une partie de mon travail, ces hommes sont devenus des pères. Qu'est-ce qu'un père raconte, finalement, de sa jeunesse à ses enfants? Et qu'est-ce qu'un père raconte, notamment, quand ces expériences ont à voir avec des choses aussi dures que la honte, la peur, le mépris ou la pauvreté absolue, enfin des choses qu'ils ont pu découvrir en Algérie, le racisme? Parfois, on peut avoir un discours dessus. Parfois, ça paraît beaucoup plus compliqué à transmettre à ses enfants. Donc, j'essaye aussi de raconter ça en sortant des cas individuels. Parce que je crois que souvent, en France, les hommes qui ont été concernés par ces histoires, les hommes et les femmes d'ailleurs, n'ont pas encore bien conscience que ce qu'ils ont vécu ne s'explique pas uniquement par des dispositions individuelles. Voilà, c'est pas parce que... Les hommes ne sont pas taiseux par nature. Hein, voilà, c'est une éducation qui fait ça, c'est une culture, c'est un certain rapport à leur expérience de la guerre aussi qui fait ça. Donc j'essaie de mettre tout ça en relation pour bien expliquer à quel point on est tous aussi des êtres historiques et situés.
Parce que la spécificité de votre livre, c'est de prendre comme territoire de recherche la famille et de mettre en parallèle l'évolution de la société, des mœurs et de la famille et de la place du père à l'intérieur de la famille, et la guerre d'Algérie et son silence. Et vous écrivez, à un moment donné, non seulement la guerre fut menée au mépris souvent des lois de la guerre, mais son échec signifia la fin d'un projet politique global, justifiant la place de la France dans le monde et la vision que les Français avaient d'eux-mêmes. après 1962, la société fut exposée à une transvaluation, une révision radicale des valeurs. L'expérience qu'avaient eue les soldats en Algérie les rattachait à ce monde officiellement disparu. Et donc, en fait, dans ce renversement des valeurs, il y a l'idée, en fait, en tout cas que moi je comprends comme l'idée globale de domination, en fait. Ça a été normal et valorisé de dominer, que ce soit les Français sur les Algériens, que ce soit les hommes sur les femmes, les pères sur les enfants. Et donc, en fait, vous mettez en parallèle ce renversement de valeurs.
Quand je parle de transvaluation, c'est-à-dire que je pense que pour qu'une communication soit possible et qu'une transmission fonctionne, il faut sans doute qu'on soit capable de se comprendre et de comprendre les mots de l'autre. Or, dans cette idée de transvaluation, il y a l'idée que les mots n'ont plus le même sens et qu'on perd le sens des mots. Et donc, on croit dire quelque chose, on dit être humain, on dit crime, on dit grandeur de la France et ça n'a plus le même sens. À 10 ans d'écart, parfois à 5 ans d'écart et évidemment plus encore. Donc cet anachronisme finalement qui est dans la transmission, elle peut produire le désir d'expliquer. Donc certains le font, hein. Certains soldats anciens d'Algérie ont cette démarche, ont cette compréhension du fait que le monde a changé, les mots ont changé, et d'autres ont un sentiment de ne vraiment pas être compris et se taisent. Ils essayent, puis ils se taisent. Il y a vraiment ces deux mouvements-là. En revanche, pour reprendre à votre question, la manière dont vous emboîtez les choses, je ne l'ai pas fait comme ça, mais c'est drôlement intéressant. Je ne dirais pas que c'est une question de... Enfin, je ne le dirais pas comme vous, mais je pense qu'il y a quelque chose autour de la question de l'autorité. Il y a profondément quelque chose qui change à la fin des années 60 dans la manière dont l'autorité est construite en France, socialement et politiquement, et dans la manière dont l'autorité est consentie en France. Et il me semble que les cercles, les domaines politiques, sociaux, familiaux et intimes sont évidemment en lien. Voilà. Et il y a des choses qui circulent de l'un à l'autre. Alors, ça reste encore à étudier. Donc, mon livre est une proposition de ce point de vue-là. Je crois que ça va avec le récit de l'Algérie, ou plutôt la transmission, parce que ce n'est pas que du récit. Les formes de transmission, elles ont à voir avec tout ça qui bouge au même moment, à savoir le rapport dans le couple, les rapports d'égalité dans le couple qui sont plus importants, et d'égalité entre les parents aussi, et puis bien sûr aussi de négociation plus grande de l'autorité paternelle. Donc tout ça, ça joue sur la capacité des pères à parler, des maris à parler, des femmes et des enfants à écouter ou à questionner.
Comment vous le liez, vous, concrètement, la possibilité du récit de la guerre en Algérie avec la transformation des relations conjugales, par exemple ?
Alors, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la correspondance de certains couples pendant la guerre. Et donc, j'ai pu observer la manière dont naissaient ces couples, en fait, finalement, parce qu'il faut imaginer que quand on a 20 ans, on a rarement une longue histoire de couple derrière soi. Donc, bien souvent, les deux années passées en Algérie, elles sont énormes à l'échelle de la vie du couple. Et donc là, on va poser des bases, en fait. Beaucoup de couples éclatent hein, pendant la guerre, mais pour ceux qui posent des bases, on peut les observer. C'est ces moments où, grâce au fait qu'ils sont séparés, ils s'écrivent. Et comme ils s'écrivent, ça fait des sources. Et si ça fait des sources, après, je peux les étudier. C'est merveilleux. Et donc, résultat, on les voit fonctionner comme couple. Et ça, je trouve ça assez fascinant, notamment du point de vue des femmes, quand dans les lettres, elles font référence à leur mère. Et on voit bien qu'il y a une espèce de question de imitation, émancipation, hein, cette question, finalement, est-ce qu'on va reproduire ? Et on a par ailleurs des sondages faits à l'époque où on voit bien que les jeunes gens s'imaginent allant reproduire le couple de leurs parents, alors qu'en fait, dans la pratique, ils sont en train de s'en émanciper. Ils sont notamment en train de s'en émanciper parce que leur couple est beaucoup plus égalitaire. Égalitaire dans les aspirations et égalitaire dans tout simplement les choix. Hein, les choix de domicile, les choix de... Puis après, il va y avoir bien sûr le choix de la contraception hein, qui va, il me semble, bouleverser vraiment l'économie globale des couples. Et donc, le partage de l'expérience algérienne dans tout ça, eh ben, c'est un partage, justement. Donc, les formes du partage, elles sont liées avec ça, puisqu'il s'agit de ne rien cacher, par exemple, ou cacher le moins possible, ou au contraire épargner, protéger sa fiancée, lui épargner les souffrances. Donc voilà, on voit bien que la manière dont ils se situent dans ce qu'ils peuvent dire de leur expérience algérienne, c'est aussi leur manière de concevoir le couple du côté des hommes. Et du côté des femmes, ce qu'elles demandent, ben, c'est aussi des choses qui ont à voir avec ce qu'elles demandent par ailleurs. Donc elles peuvent demander des choses différentes. Elles peuvent demander, donc, comme je l'ai dit, la confiance, elles peuvent demander l'honnêteté. Tu ne me cacheras rien, tu me diras tout. Et on voit bien que ça ne concerne pas que l'expérience algérienne. Et elles peuvent demander aussi à échanger, à discuter. Et on voit bien que ça aussi, ça ne concerne pas que l'expérience algérienne. Donc, ça a été pour moi, cette question du récit de l'Algérie, finalement une voie d'entrée dans le fonctionnement des couples. Une forme d'éclairage, en fait. Et inversement, ça produit la proposition analytique inverse, à savoir, il faut aussi regarder comment le couple fonctionne pour comprendre ce qui peut être dit. Voilà. Si on considère que ce qui concerne les hommes ne concerne pas son épouse, eh ben la guerre, ça concerne les hommes. Donc, on n'en parle pas à son épouse. Mais si on considère que ce qu'on vit d'intime doit être partagé avec son épouse, eh ben à la guerre, on vit des choses intimes et donc on partage avec son épouse. Donc, c'est plutôt ça que je propose. En fait, le livre, pour moi, c'est un peu c'est aussi des clés que je propose aux lecteurs, aux lectrices, à la disposition des gens qui veulent réfléchir notamment sur leur famille. Parce que voilà, toutes les familles ne marchent pas pareil. Il y a des grandes tendances sociales que j'essaye de décrire, sociétales que j'essaye de décrire. Et puis après, il y a bien sûr des histoires qui ont des explications plus personnelles. Donc voilà, mais il me semble que voilà, la manière dont fonctionnent les couples explique qu'il soit parfois plus facile de parler et parfois moins facile. D'ailleurs, à ce titre, il y a des hommes qui ont eu plusieurs épouses dans leur vie. Et j'ai pu comparer la manière dont ils parlaient à l'une et parlaient à l'autre. Et voilà, ça confirme très clairement que ce sont des relations qui font les conditions de parole. Avec l'une, on n'a pas réussi à parler, on ne s'est pas senti écouté. Le contexte peut-être global aussi jouait, évidemment. Avec l'autre, on a construit autrement la relation et à partir de là, la parole est devenue possible.
Qu'est-ce qui se joue en 99 quand l'État reconnaît qu'il y a eu une guerre et nomme cette guerre d'Algérie? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour les anciens soldats, dans la possibilité de dire ou pas? Et qu'est-ce qui se joue dans les couples et dans les familles, dans la transmission aux enfants, quand tout à coup il y a un mot pour dire cette guerre?
Je pense que, en tout cas en France, la parole de l'État a du sens, elle est attendue par certains acteurs sociaux, et celle-là, elle était très attendue des anciens combattants, la reconnaissance qu'ils avaient vécu une guerre. Et à partir de là, ils peuvent d'une certaine manière s'appuyer sur cette reconnaissance officielle pour, par exemple, raconter leur guerre, tout simplement. Et effectivement, à partir des années 2000, il y a un nombre d'anciens combattants de base, pas des officiers, qui prennent la parole et qui disent « ma guerre, moi je vais raconter ma guerre ». Et il me semble que là, il y a eu une espèce de verrou qui a sauté, qui ne s'explique pas simplement par la reconnaissance de 1999, c'est un contexte plus large qui autorise la parole. Mais très clairement, 99, c'est une des clés, enfin, c'est un des fondements de ce sentiment de ne pas avoir à prouver, puisque finalement l'État a dit. Ce même État qui a nié, ce même État qui a été la cible des associations d'anciens combattants, qui disaient, mais il serait temps de nous reconnaître. De lui, en fait, on attend, et de toute façon, en France, on attend beaucoup. Donc, on attendait là que l'État dise, enfin, ce qui, en fait, était la palissade. Tout le monde était au courant depuis longtemps qu'il s'agissait d'une guerre. Après, restait à savoir quelle guerre. Parce que guerre, on revient à l'histoire des mots. Guerre, ça veut dire quoi? Quand je dis guerre aujourd'hui, ceux qui écoutent, qu'est-ce qu'ils voient dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Quel est le point commun entre les tranchées de Verdun et, je ne sais pas moi, la guerre en Syrie aujourd'hui? Quels sont les points communs? Pourquoi est-ce que c'est le même mot? Est-ce que c'est possible même que ce soit le même mot? Moi, il me semble, comme historienne, qu'on peut dire que le point fondamental commun entre toutes ces expériences, c'est la mort. C'est le rapport à la mort, fondamentalement. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même tellement de variations qu'il va falloir bien préciser. Et c'est aussi pour ça que les anciens écrivent « ma guerre, je vais vous raconter ma guerre », parce que être sur un piton pendant 12 mois, à attendre l'hélicoptère qui apporte le courrier et à guetter, comme le désert des Tartares, quelque chose, c'est pas comme être en ville, patrouiller, risquer des attentats, et pourtant c'est la même guerre d'Algérie. Donc il est vraiment nécessaire de faire exister la diversité des expériences, et ça c'est ce qui éclot littéralement après 1999. dans l'espace public par des livres et dans les familles par des récits, il me semble.
Et vous dites qu'il y a un contexte plus global qui autorise la parole à ce moment-là. C'est quoi ce contexte pour vous ?
Alors, le contexte plus global, je crois que c'est deux choses. Le premier, c'est la démographie qui fait qu'à ce moment-là, ces hommes qui sont nés dans les années 30, ils arrivent à l'âge de la retraite. Et qu'on sait bien, les études de sociologues, de sciences politiques montrent que, voilà, que c'est un moment, l'âge de la retraite, le départ à la retraite, où on fait une espèce de bilan de sa vie, où on revient sur sa jeunesse. Donc, c'est un moment assez propice au bilan et donc éventuellement à l'écriture de quelque chose comme des souvenirs. Donc, ça tombe à ce moment-là et ça va rencontrer une chronologie sociale et intime aussi pour les gens. Et puis, ça arrive aussi à un moment où la thématique associée aux événements du passé, en France et dans le monde, aux événements tragiques comme ça du passé, en France et dans le monde, est très souvent et de plus en plus autour du thème des victimes. On va beaucoup parler des gens qui sont les victimes, finalement, du passé, les victimes de ce qui s'est passé avant, victimes des États, bien sûr. Mais... Et donc, pour la guerre d'Algérie, on a eu la question de la responsabilité de l'État, donc elle a été très forte, et l'idée que finalement, les anciens combattants avaient été, malgré eux, dans cette guerre. Vraiment, cette thématique, elle est forte dans ces moments-là, dans ces années-là. Et ça aussi, je crois que ça contribue à leur capacité à parler, à prendre la parole, à s'autoriser à parler, parce que finalement, ils vont le prendre pour, en partie, soit répondre à cette impression, soit lui donner corps. Hein, effectivement, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont sentis impuissants. Donc c'est aussi autour de ça, les récits de ma guerre d'Algérie.
Raphaël Branche est historienne et son dernier livre, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Enquête sur un silence familial » est publié aux éditions de La Découverte. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, Passage, notre podcast d'histoire vraie, le Book Club sur la littérature ou Travail en cours sur les bouleversements du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com/club. À très vite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes, et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.